la légende de la croix du taux. Pour mieux comprendre l'intrigue, faisons connaissance avec la famille de Hay. Claude de Hay et son épouse Marguerite résident au sud d'Ouffay, à Himbe, dans la place forte. Historiquement, ils ont existé. Claude, mailleur de Jeuneret, alors situé en principauté de Liège, a bel et bien perdu la vie dans un traquenard à l'endroit même où se dresse la croix du taux. La légende lui a adjoint un frère, Gilles, qui habite Sparmont. Je vous rappelle que le chemin le plus direct pour se rendre d'Ouffay à Sparmont, distant d'environ une lieue, passe par l'actuelle rue Albadet. Une sœur, Jeanne, complète la famille. Elle demeure à Anceval, à moins de 200 toises de Himbe. Depuis son veuvage, elle vit en compagnie du frère de son époux, l'abbé de Senis, à qui elle a confié la gestion de ses biens. Et maintenant, place aux protagonistes. Les secrets de la croix du taux à Ouffay. L'hiver est bien rude. La neige, apparue dès la Toussaint, est toujours là, et nous sommes au mois de février de l'année 1614. Le gel s'est fort accentué depuis la Noël, et cela n'a pas simplifié les approvisionnements en cette saison où l'alimentation est toujours précaire. Aujourd'hui, jour de la Chandeleur, Claude et Marguerite de Hay rassemblent tout le monde dans la maison forte de Himbe, devant des piles de bouquettes à la farine de sarrasin et aux raisins secs. Quand je dis tout le monde, cela fait un nombre respectable de personnes, car si les gens d'écurie, les vachers et les porchers restent à se chauffer auprès de leurs bêtes, tout le reste de la maisonnée se joint à quelques invités pour se presser autour du feu et des maîtres. Vers 8 heures, Marguerite fait distribuer à chacun un bol de vin chaud, au sucre, à la cannelle, avec un rien de vinaigre de pomme. Et puis on se retire, pleinement satisfait d'avoir pu faire bombance au milieu de la disette. Peu de temps après que les courtines eurent été tirées, le vent s'est mis à la tempête. La croisée siffle comme une cornue, la cheminée pousse des ululements interminables, et, malgré les effets bénéfiques de la bassinoire, Claude de Hay ne peut trouver le sommeil. Debout pour arpenter sa chambre, il ne lui est pas possible de tenir une chandelle allumée, et il a bien fallu faire amener la lampe. La violence du vent est telle que les cendres saupoudrent le plancher, laissant quelques lamentables braises à leur dernier crépitement. Comme la neige s'est mise à tomber, elle est précipitée sur les vitraux pour y créer de vagues fantômes blancs. Bientôt, ce sera une poudre de givre qui, forcée par les joints, viendra se mêler à la cendre. Décidément, il fait bien trop froid. Le seigneur Hautain se recouche en maugréant, bien haut, pour maudire les circonstances. Gagné par la nervosité, Claude ressasse la conversation qu'il a eue, après le dîner, avec sa sœur Jeanne. Il faut savoir que cette dernière, dès son veuvage, avait confié les intérêts de ses enfants au frère de son époux, l'abbé de Senis. Ses intérêts ne vont pas forcément dans le même sens que ceux de ses frères Claude et Gilles, que l'abbé n'a de cesse de tourmenter. Tous deux, d'ailleurs, tiennent grande rigueur à leur sœur de suivre trop à la lettre les conseils de son chapelain de beau-frère. Cette situation avait amené la conversation de Jeanne et de Claude au niveau des exclamations. Plus que jamais, il faut couper les broches à ces intrigues. L'héritage de Hay ne peut intéresser des étrangers. 4 heures du matin. La tempête semble s'être calmée. Claude, qui vient de se lever, décide de faire harnacher, tout de suite, afin de ne pas manquer l'office du matin. Le temps d'avaler quelques bouquettes roulées à pleine main et de boire une grande bolée de lait bouillant, il est dans la cour. La neige lui arriverait à mi-cuisse si l'on avait dégagé l'entrée des cuisines. Pour se protéger du vent, la grande et forte jument scellée et vêtue de couverture se colle le museau au dos du palefrenier. Claude enfourche l'animal et prend le chemin d'Ouffet. Même le porche ne résonne plus du pas de la bête. Elle y marche sur un tapis de neige. Au sortir du bois de Himpe, l'épaisseur est telle à certains endroits que la panse du cheval y laisse une large trace cotissée de deux ornières évidées par les pieds du cavalier, enfoncées dans les étriers garnis de fourrure. C'est dans le taux que Claude pense devoir rebrousser chemin. Amassée par le vent, la neige atteint ses aisselles. La monture se cabre, saute, s'enfonce, et la neige se referme sur son dos. Sa tête disparaît. Couché sur le dos de sa monture, le cavalier, à l'aide de ses mains gelées, lui dégage les œillères et les oreilles. Le cheval se redresse pour recommencer le même manège, jusqu'à franchir les amas, mètre par mètre. Au bord de l'épuisement, l'équipage atteint enfin le puits du Taux. Claude, descendu de monture, franchit à pied dans la neige jusqu'aux hanches les 300 derniers mètres qui le séparent de l'église. Il est talonné par sa jument, reconnaissante de l'avoir ainsi soulagée. Comme il l'attachait devant la cour de justice, il reconnaît, bien qu'il fît encore nuit, son frère Gilles qui, venant de Sparmont, avait vécu la même aventure du côté du Halbaudet. Entrant de conserve à l'église, quelle n'est pas leur stupéfaction de constater que l'on en est déjà au kyrie. Par un tel froid, plus personne n'attendait le Seigneur. La bouche de chaque fidèle laisse échapper des volutes de fumée comme forge à la relance. Et le chapelain, qui n'est autre que l'abbé de Senis, s'interrompt. Après un bref regard de concertation, les deux frères remontent la grande nef de l'église, au bruit des éperons sur le pavé, et gagnent leur place sous la chaire de vérité. Imprudemment commencé en dehors de la présence des seigneurs, l'office reprend promptement, pour être bien vite achevé. Nos deux compères sortent sans saluer personne. Laissant leur monture là, où ils les ont attachés, ils descendent à la croisée des prés pour y attendre le chapelain qui ne manquera pas d'y passer pour rejoindre Anceval où il réside. Les lueurs de l'aube montrent un ciel plus dégagé, mais le froid reste vif. Les mains enfoncées dans leurs chausses bourrées de foin, les deux frères, rendus invisibles par l'épaisseur de la couche de neige, n'ont pas un quart d'heure à attendre. Bientôt, le digne abbé, très emmitouflé, apparaît, monté sur un fort cheval de trait. Gilles pique de la pointe de son épée le poitrail de l'animal, qui se cabre en hennissant et désarçonne le cavalier. Le chapelain tombe dans les bras de Claude, qui lui enfonce son poignard dans le cœur. La victime trépasse sans un cri. Trop heureux d'avoir trouvé prétexte à se débarrasser d'un tel gêneur, les frères s'en vont reprendre leur monture à la cour de justice et s'engagent sur le chemin du retour, abandonnant le cadavre dans la neige, mais en prenant toutefois la précaution d'emmener le cheval. Personne ne s'est inquiété du sort du chapelain. C'est seulement le lendemain que son corps est découvert, gelé, tapi dans la neige, englué de sang noirci. Bien vite, la nouvelle traverse le village. Les faits sont reconstitués avec toute la fantaisie et le pittoresque de l'imagination populaire. Bref, l'opinion publique s'en trouve fort scandalisée. Il faut agir. Dans un premier temps, on fait dresser une croix à la mémoire du chapelain. Dans un second temps, et personne n'a jamais su comment, on retrouve dans le fossé du Halbaudet le corps de Gilles de Haye, atrocement défiguré par un coup d'arquebuse. Atteint dans son affection, et ce qu'il croit être son bon droit, Claude, le seigneur de Imbe, ne pense plus qu'à se venger. Il ne se contente pas d'élever une croix à la mémoire de son frère. Il prend toute disposition pour mener à bien et rondement une enquête afin de découvrir les assassins. Bientôt, le sergent lui démontre que les coupables sont Jean de Warre et Gil Ayerlin. Ceux-ci, prudemment, ont passé la frontière en terre luxembourgeoise, de l'autre côté du Néblon. On a beau doubler les gardes, surveiller toutes les routes et les moindres sentiers, on ne parvient pas à les arrêter. Or, on sait qu'ils viennent régulièrement revoir leurs épouses. Les jours, les semaines et les mois passent. Face à cette habileté, Claude de Haye conçoit un projet machiavélique. Puisqu'il ne peut capturer les deux bandits, il faut leur tendre une embuscade. Mais, après tout, pourquoi ne pas menacer leurs épouses? De fil en aiguille, il imagine d'accuser celles-ci de sorcellerie. À l'époque, la question était brûlante. Il lui suffit d'en saisir la cour d'Oufflet, et la justice prend un décret d'arrestation contre Marguerite de Warre et Aylit Ayerlin. Elle interroge des témoins. Il s'en trouve plusieurs pour démontrer avec force preuve les accointances des intimés avec Satan, leur puissance à rendre malades les gens et les animaux. On a même remarqué chez Marguerite un pied fendu, comme celui d'une chèvre. 24 heures plus tard, elles sont emprisonnées. La cour passe à l'interrogatoire en règle des accusées. Celles-ci, attachées à une échelle, subissent une élongation par de lourds poids suspendus à leurs pieds. Devant leur obstination à ne pas avouer leurs méfaits, on passe à un supplice plus subtil. Chacune doit ingurgiter de force 7 à 10 litres d'eau glacée, puis on recommence l'opération avec de l'eau très chaude. Elles finissent par avouer tout ce que l'on souhaitait. Nous sommes le 4 août 1614. En place publique, en moins de 2 jours, un grand bûcher a été élevé. Les 2 condamnés, habillés de jute, épuisés par la torture, l'œil hagard et les cheveux collés aux tempes, sont amenés en chariot. Sous les huées, on les bouscule jusqu'à ce qu'elles montent sans réaction à leur dernier supplice. Les 2 femmes sont attachées dos à dos à un mât planté au sommet du bûcher, pendant que l'on s'apprête à bouter le feu aux balles de paille disposées au pied de l'autel de l'immolation. Le bourreau attendait ce moment pour étrangler les malheureuses avec un fin lacet. Les flammes crépitent rageusement avant de s'élancer vers le ciel dans une gerbe d'étincelles. Claude de Haye, qui assiste à l'exécution, réalise toute l'horreur du drame qu'il a provoqué. Soudain, il est pris de panique. En fourchant son cheval, il dévale le chemin du Tau, contourne le puits au grand galop pour remonter vers Imbe, quand, arrivé au pied du talus, une arquebusade éclate violemment à ses oreilles. Mis à bas, il roule dans la poussière. Gil Ayerlin et son compère se sont approchés pour le regarder avec mépris. Il ricane, il s'enfuit. Claude de Haye, c'est un drap avec le soleil couchant. Depuis, plus de 400 ans se sont écoulés. 400 ans. On pourrait croire ces événements tombés dans l'oubli. Cependant, les nuits de pleine lune, aux environs de la Haïre, du Tau, de la place publique, de la tour de justice, on rapporte que l'on peut encore, parfois, entrevoir deux ombres furtives errer, se dissimuler dans les potagers, se faufiler de porche en porche, se glisser de coin en recoin. Seraient-ce les fantômes de Jean de Ward ou de Guille Ayerlin? Qui sait? Leur soif de vengeance ne serait-elle pas encore entièrement satisfaite? Alors, malheur, malheur aux imprudents attardés qui auraient l'outrecuidance de prendre fait et cause pour le seigneur de Haye.